Chronique de la discrimination ordinaire. Au travers de 6 portraits très ordinaires, le journaliste Vincent Hédin et Saïd Amouche, fondateurs du cabinet de recrutement à but non lucratif Mosaïque RH, ont modélisé tous les types de discrimination. De façon scientifique, Chronique de discrimination ordinaire décrypte les mécanismes qui aboutissent à cette aberration « Nous sommes presque tous discriminables ». L'ouvrage, vendu seulement 3,60€, se veut à la portée de tous. Vincent Hédin, au micro de Pascal Marcaggi.
Chronique de la discrimination ordinaire. Vincent Hédin, vous-même, vous êtes journaliste. Quel est votre lien avec Saïd Amouche ?
Moi, je suis journaliste spécialiste du social et du médico-social. J'avais fait un livre chez Autrement, il y a 2 ans, qui s'appelait « Insertion, le temps de l'action », sur les sujets qui touchaient ce qu'on appelle les entreprises d'insertion, qui aident des publics extrêmement éloignés de l'emploi. Par ce biais, j'avais rencontré Guillaume Babst, qui a fondé une superbe association dont vous avez déjà dû parler sur Radio Éthique, j'imagine, qui s'appelle l'Association nationale des épiceries solidaires. Et donc, il y a tout ce petit monde, en fait, des fellows Ashoka, des gens qui veulent essayer de réparer une économie qui a beaucoup cassé. Et aux 10 ans du mouvement Andes, j'ai croisé Saïd Amouche, qui m'a fait découvrir Mosaïque RH. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'assez fabuleux. Je ne le connaissais pas avant, je reconnais, à part les écrits. On a commencé à travailler, on l'a apporté chez Gallimard parce que je lui ai dit il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas voir le plus haut, ce qui nous paraît le plus beau. Et puis, à notre grande stupéfaction, la première réaction d'Éric Vigne, parce qu'on lui avait apporté un ouvrage un peu air du temps sur la diversité, pourquoi est-ce que c'est sympa, tout ça. Il nous a dit, écoutez, vous avez un vrai sujet, mais revenez quand vous voudrez être ambitieux et revenez avec quelque chose qui dénonce véritablement ce scandale sans nom que sont les discriminations. On a été un peu interloqué, on est revenu, on a vraiment travaillé notre sujet. Et après, il a fallu se mettre à l'ouvrage pour sortir dès maintenant, pour essayer, parce qu'il ne vous aura pas échappé que 2012, c'est une année de changement. Il y a des grands débats qui vont être menés et on aimerait que la discrimination soit l'un d'entre eux. On a remonté le plus possible, on a pris 6 portraits de 6 individus qui sont victimes d'inégalités et de discrimination tout au long de leur vie, en faisant le postulat que ces 6 portraits dessinaient en réalité des millions de personnes qui sont discriminées. Parce que nous, notre point de départ, c'est de ça, c'est de dire la discrimination, ça concerne des millions de personnes. Et donc, par une de ces 6 entrées, n'importe quel lecteur se sent forcément interpellé. Et puis derrière, on a fait un manifeste en 3 temps... à l'encontre des pouvoirs publics, des entreprises et de tout à chacun. C'est un livre de combat. Le combat, c'est pas ennuyeux. On peut être rebuté, on peut continuer à être dans le déni, mais je pense qu'on est forcément interpellé, en tout cas. Enfin, j'espère.
Quels sont les 6 portraits ? Ce sont des portraits robots ou bien ce sont des personnes que vous avez interviewées et qui ont livré leur témoignage ? Ou bien c'est un portrait sociologique ?
Alors en fait, il y a déjà plusieurs journalistes qui nous ont fait ce reproche de ne pas avoir pris des vraies vies.
C'est une question, c'est pas un reproche.
On a remarqué qu'en réalité, quand on prenait un cas particulier, ça ne faisait pas avancer le sujet parce que les autres continuaient, les dirigeants, les donneurs d'ordre, continuaient à être dans le déni en disant « bah oui, le cas que vous nous citez, c'est un cas particulier, il est malheureux ». Et donc, c'est pas de chance pour lui. Nous, ce qu'on a voulu faire justement, c'est d'être inattaquable là-dessus. Donc on a inventé, entre guillemets, 6 vies fictives et pourtant réelles. C'est-à-dire que ce qu'on décrit, c'est pas du tout à chaque fois Oliver Twist ou c'est pas de la fiction. On a donné un appareil statistique assez important, en tout cas impressionnant, je sais pas, mais où on peut chiffrer, quantifier et évaluer tous les moments de votre vie qui font que si vous appartenez à une certaine catégorie, vous allez être victime de discrimination. Donc c'est pas du tout de la fiction. C'est-à-dire qu'on explique qu'Abdoulaye, qui grandit à Sevran et qui a des parents maliens, il parlera moins bien français, le maîtrisera moins bien à l'écrit que ses petits camarades, parce qu'on sait qu'on a la stat afférente. On sait que Caroline, qui a eu 2 enfants, à 30 ans, elle sera payée 23% de moins que son mari, qui pourtant a fait les mêmes études, parce que l'Observatoire des inégalités hommes-femmes nous dit cela. Donc ce sont 6 portraits qui ont l'ambition démesurée, je le reconnais, d'embrasser des millions de destins. Ça nous paraissait beaucoup plus puissant que d'alerter 6 interviews dans la rue. Donc en fait, c'est pour ça que ce sont des portraits imaginaires et pourtant très réels.
Les discriminations les plus fortes aujourd'hui, alors il y a le fait d'avoir une couleur de peau différente, il y a le fait d'être une femme, Il y a le fait d'être handicapé, enfin en situation de handicap, sachant qu'on ne n'est pas handicapé, mais qu'on le devient à un moment de sa vie, donc ça peut arriver à tout le monde. Il y a le fait éventuellement d'être gros, il y a le fait d'être vieux. Tout est sujet à discrimination dans une société qui a du mal à trouver son équilibre.
Bah alors en fait, justement, nous, c'est notre point de départ, c'est une interrogation, c'est pourquoi est-ce que le modèle économique dominant qui est celui qu'on applique ne concerne en réalité que 15 à 20% de la population, c'est-à-dire des mâles blancs, minces, hétérosexuels, non-fumeurs de 25 à 42 ans.
Oui, mais ça, c'est pas de l'économie, c'est du magazine de mode.
Non, c'est malheureusement de l'économie, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans la cooptation, dans les pratiques, si vous avez un logement, ça va être plus simple d'en obtenir un si vous appartenez à ces catégories. Ça va être beaucoup plus simple dans un entretien d'embauche et autres. Donc nous, en fait, notre démarche a été de se dire, ok, les gens associent toujours la discrimination à une infinie minorité, quelqu'un qui a été discriminé en vertu de son orientation sexuelle ou de sa couleur de peau, de son origine géographique, toutes choses qui sont vraies. Le problème, c'est qu'en général, les misères s'opposent aux misères et nous, on a voulu apporter une démarche globale où, au contraire, les misères s'allient entre elles pour contrer un phénomène discriminant. Donc c'est pour ça que dans notre démarche, tout part des femmes. C'est qu'on dit, voilà, il y a 51% de Français qui sont françaises, elles sont 58% des diplômées du supérieur et à compétences égales, elles continuent à être tout le temps discriminées. Ça montre l'absurdité du système. Le deuxième point très important en termes de discrimination, en termes de volume, c'est l'âge. C'est-à-dire que quand vous avez passé 45 ans, vous avez 7 fois moins de chances de retrouver un emploi si jamais vous tombez dans le chômage. Or, là, il y a une injonction contradictoire très forte, pour ne pas dire schizophrénique, parce que c'est un terme qui est souvent employé à contresens, mais le législateur nous dit vous gagnez 3 mois d'espérance de vie par an, il faut travailler plus longtemps, très bien, et je pense que les Français dans l'absolu seraient prêts, sauf que quand on a le taux d'emploi le plus faible des seniors en Europe, quand on refuse de vous payer une formation parce que vous avez payé 45 ans, c'est extrêmement grave. Et donc, effectivement, cette petite logique de gestion du risque extrêmement frileuse qui privilégie toujours la montée en puissance des mêmes profils, ça crée beaucoup de dégâts pour l'économie à long terme, en fait. Notre démarche, c'est de sortir de la morale, même si c'est nécessaire, mais de dire le fait d'appliquer une politique discriminante dans l'éducation, en privilégiant certains destins, dans l'accès au logement, dans l'accès à l'emploi principalement, qui sont les principaux domaines, même si on pourrait étendre un peu aux loisirs, les discriminations policières, etc. Mais nous, on a voulu s'étendre sur ces deux domaines, éducation, emploi. Ça crée une catastrophe nationale parce que ça disloque le lien social, ça amène vers une France figée où on pense qu'on a quasiment un destin à la naissance. On n'est pas encore une société de caste comme en Inde, mais on voit bien qu'aujourd'hui, on revient à la littérature balzacienne, c'est-à-dire qu'en gros, on sait que si on est né dans certains bons faubourgs, ça va être bon, et on sait que si on est né dans certains bons ghettos sur lesquels les caméras de télévision se concentrent beaucoup, mais on sait aussi que si on est né à Verdun, dans cette France rurale, cette France des oubliés, des invisibles, ça va être extrêmement complexe, et je reste poli.
Je retiens que le fait d'être une femme est une fatalité. Comment est-ce que l'on peut sortir de cette situation? Parce qu'en même temps, il y a un véritable gâchis de talent.
Oui, alors nous, on n'est pas du tout fataliste. On dresse un long portrait comme ça dans ce livre de cette France qui s'évertue à discriminer, mais on a voulu mettre en place une fusée à 3 étages, si vous voulez. D'abord pour le politique, en lui disant d'investir justement là où il le faut, avec justice, parce qu'il n'y a rien de plus injuste que de traiter de façon égale de situations qui ne le sont pas. Donc il y a certaines zones sur lesquelles il va vraiment falloir mettre le paquet, notamment les ZEP en matière d'éducation. Derrière, dans l'emploi, eh ben, s'il faut passer par la contrainte et les quotas, dans un premier temps, on y passera, mais ça peut se dépasser. Ensuite, les acteurs économiques, ils doivent changer leur mode de gouvernance, arrêter de mettre toutes leurs réunions importantes avant 8h30 le matin ou après 18h, parce que comme 83% de ceux qui s'occupent des enfants restent les femmes, eh ben, c'est un peu compliqué. Et là, c'est à l'entreprise de changer sa façon de voir les choses. De la même façon qu'en termes de ressources humaines, de recrutement, d'évolution des carrières, il faut arrêter de penser que quelqu'un qui a une licence d'histoire, une licence de philo, une licence de lettres est un imbécile parce qu'il n'a pas fait une école de commerce. Il a sans doute des capacités de synthèse, d'analyse. Il peut être dans la communication, il peut écrire, il peut être aux ressources humaines. Ensuite, il faut arrêter de croire que parce que quelqu'un n'a pas eu son bac à 18 ans, c'est fini. Je veux dire, Lionel Jospin, il portait la formation tout au long de sa vie, mais il serait un peu temps que les acteurs économiques croient en ça et donnent véritablement une deuxième, une troisième chance à ceux qui en veulent. Et puis, on avait un message très fort avec Saïd Amouche, c'était de dire ce qui s'est passé au Forum social de Porto Alegre, c'était de dire pour que le progrès social se mette véritablement en place, il ne faut pas que le citoyen attende tout fous de l'État ou de l'entreprise d'une part qui seraient une bande d'affreux capitalistes, cigares en bouche, etc. Il faut aussi que le citoyen apprenne à faire ce que les Américains appellent de l'empowerment et se prenne par la main et dise « Ok, là, je constate une situation discriminante, je peux en parler à mon N+1, je peux en parler à mon N+2, je peux changer mon attitude en tant que prof. » Les établissements ont beaucoup d'autonomie. Je rencontrais Guy Carcassonne à Nanterre qui me disait qu'il avait arrêté de faire passer les tests de culture générale parce que c'était discriminant, mais qu'il oblige ses étudiants à faire des tests d'actualité parce que les étudiants doivent suivre l'actualité. Et là, pour le coup, c'est plus discriminant. On peut tous se prendre par la main. Ça a été la démarche et l'impulsion de Saïd il y a 5 ans quand il a créé Mosaïque RH en disant « Je constate qu'il y a cette discrimination faite à l'origine sociale, géographique et ethnique des candidats. Je crée Mosaïque RH. L'an dernier, Mosaïque a permis à 560 jeunes de trouver un contrat. » Voilà, si ce genre de démarches sont démultipliées, ça finira par faire boule de neige.
Donc, chronique de la discrimination, malheureusement, on va dire ordinaire, hein. Ça se trouve dans toutes les bonnes librairies.
Si Gallimard a fait ce qu'il fallait pour, et je crois qu'ils l'ont fait, avec un tirage très conséquent, c'est présent normalement dans toutes les bonnes librairies au prix non discriminant de 3,60 €.